Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons la série concernant la victoire finale. Nous arrivons à l'étude numéro 13. Et le titre sera « Les origines de Satan ». Je répète, les origines de Satan. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11. Eh bien, c'est nous qui sommes ce peuple parvenu à la fin des siècles. Il n'y a pour nous aucun moyen d'échapper aux conditions générales associées à la fin du temps présent. La Sainte Bible dit beaucoup de choses au sujet de ces derniers temps. Elle parle d'une Église qui s'épanouit et qui hérite de la gloire tenue pendant longtemps en réserve par Dieu, notre sage Père. Elle parle de grands traumatismes et de grandes souffrances parmi les nations, des tribulations telles qu'on n'en avait jamais vues. Il est dit qu'une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un autre royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Car alors, la détresse sera tellement grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais plus. Saint Matthieu, chapitre 24, versets 7 à 21. Je dois vous demander pardon parce que je dois toujours prier avant de commencer une telle étude parce que je ne pourrai jamais le faire par moi-même. J'ai besoin que le Saint-Esprit m'aide. Oui, Seigneur, permets que le Saint-Esprit puisse vraiment m'inonder à tel point qu'il me guide, m'inspire tout au long de cette étude. Merci pour ton aide, sans laquelle je reconnais que je ne pourrais pas le faire. Loué soit mon Père éternel, loué soit Jésus-Christ, mon Sauveur et Seigneur. Merci. Amen. Oui, chers amis, c'est nous qui sommes ce peuple. Nous devons à la fois accepter le défi de nous lever pour la gloire, et pas seulement pour la gloire, mais aussi pour les avertissements, pour fuir la colère à venir. Et il est donc temps de nous réveiller et de revêtir les armes de la lumière, car maintenant, le salut est plus proche que lorsque nous avons cru. Romains, chapitre 13, versets 11 et 12. Se réveiller, c'est être constamment vigilant et de plus en plus surnaturel. Dieu et Satan se manifesteront tous les deux dans toute leur ampleur. Se manifester veut dire être vu de manière tellement évidente que même les plus simples percevront tout cela facilement et ils comprendront. J'ai eu un aperçu de l'armée de Satan. Elle est en formation pour accomplir des horreurs allant au-delà, oh oui, bien au-delà de la folie que a été ce fameux Auschwitz terrible, ou de celle de l'Ouganda sous Amin Dada. C'est en effet le mal sans précédent jusqu'ici insoupçonné et inconnu de la race humaine. C'est le mal conçu en enfer pour être manifesté dans toute son horreur dans les derniers temps. En vérité, le mal arrive dans toute son ampleur. Mais la justice, elle aussi, alléluia, elle vient dans toute son abondance. L'Apocalypse nous dit dans le chapitre 22, verset 11, que celui qui est injuste commet encore l'injustice, et que celui qui est souillé se souille encore, et que celui qui est juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint soit sanctifié encore. Dieu aussi, en effet, prépare une armée, et les temps de la fin sont donc marqués par le conflit, alors que deux armées s'affrontent comme cela n'a jamais été jusqu'ici. Il ne s'agit pas de combat avec seulement des fusils et des balles, ou avec des bombes et des chars d'assaut. Le combat se déroule dans le domaine de l'esprit, et c'est pourquoi il s'appelle combat spirituel. Deux fleuves marquent les temps de la fin. En effet, il est dit dans Apocalypse chapitre 9, versets 1 à 3, et les versets 13 à 16, et du couchant, ils craindront le nom de l'Éternel et du lever du soleil sa gloire. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de Dieu lèvera un étendard contre lui. Ésaïe 59, verset 19. Quel est ce fleuve? Eh bien, l'Apocalypse parle du jour où l'abîme serait ouvert pour laisser échapper sur la terre un fleuve de force démoniaque jusque-là inconnu. Il est dit, et notez bien, Apocalypse chapitre 9, versets 1 à 3 et les versets 13 à 16, il est dit, et le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile tomber du ciel sur la terre, et la clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme, et une fumée monta du puits comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Et de la fumée, il sortit des sauterelles sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir semblable au pouvoir qu'ont les scorpions sur la terre. Et le sixième ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix sortant des quatre cornes de l'autel d'or qui était devant Dieu, disant au sixième ange qui avait la trompette, « Délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. » Et les quatre anges qui étaient préparés pour l'heure et le jour et le mois et l'année furent déliés, et cela afin de tuer le tiers de toute l'humanité. Et le nombre des armées de la cavalerie était de 2 myriades de myriades, et j'en entendis le nombre. J'ai pris cela d'une version allemande, mais ça rejoint votre version française, ne vous inquiétez pas. Mais c'est terrible, car même ces sauterelles ou criquets, ils vont tourmenter les êtres humains dans le monde entier d'une façon effroyable. Oui, chers amis, je pense que ces hordes démoniaques se trouvent en quelque sorte déjà sur la terre, mais qu'il y en aura beaucoup d'autres qui sortiront de l'abîme. La terre souffre d'une invasion de l'enfer. Mais l'Esprit de Dieu aussi, cette pluie de l'arrière-saison, est répandue sur toute chair, selon Joël, chapitre 2, verset 28. Il y a une grande concurrence pour gagner les âmes en ce temps de moisson, alors que l'Esprit de Dieu vient comme une pluie bénéfique afin de faire mûrir les fruits précieux de la terre. Usez donc de patience, frères, et j'ajoute sœurs, jusqu'à la venue du Seigneur. Voici le laboureur attend le fruit précieux de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il reçoive les pluies de la première et de l'arrière-saison. Et vous aussi, usez de patience, affermissez donc vos cœurs, car la venue du Seigneur est proche. Saint Jacques, chapitre 5, versets 7 et 8. Jacques nous dit très clairement dans ces versets que la pluie de l'arrière-saison indique d'une manière certaine la proche venue du Seigneur. Néanmoins, l'Écriture nous enseigne aussi que le flot opposé, c'est-à-dire celui des esprits sataniques, qui est également répandu, c'est l'indication que nous sommes arrivés aux dernières heures de notre temps. Dieu est omniprésent, omnipotent, et son esprit couvrira la terre comme l'eau couvre les mers, mais Satan, qui réclame un accès légal aux âmes des hommes, étouffe la terre de son armée d'esprits du mal. Il est parlé de ces temps comme étant ceux où le Jourdain grossit en divers lieux. Et comme ceux qui portaient l'arche arrivèrent au Jourdain et que les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche trempèrent au bord de l'eau, hein? Or, le cours du Jourdain déborde tout le temps de la moisson. Josué chapitre 3 verset 15. Alors, de la même manière, absolument de la même manière qu'autrefois, le Jourdain inondait le temps de la moisson. Eh bien, nous aussi, chers amis, nous affrontons un Jourdain spirituel. Nous affrontons les flots de hordes démoniaques qui coupent le passage à la moisson. Leur but est de renverser le plan de Dieu, ce plan qui veut susciter une Église adulte et glorieuse qui est destinée à conduire les nations à la connaissance de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, à la connaissance de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais nous lisons dans 1 Chronique, au chapitre 12, que la puissante armée du roi David traversa le Jourdain à gué au temps de la moisson. Ceux-là d'entre les fils de Gad est un chef de l'armée, le moindre était chef d'une centaine d'hommes, et le plus grand, il était chef de passé 1000 hommes. Ce sont donc ceux qui traversèrent le Jourdain au premier mois, quand il regorge par tous ses bords et Ainsi, ils ont pu mettre en fuite ceux de toutes les vallées vers le levant et vers le couchant. 1 Chroniques chapitre 12, versets 14 et 15. Or, voilà qu'en hébreu, la véritable traduction du verset 14, c'est « Le moindre pouvait résister à 100 hommes et le plus grand à 1000. » Ces hommes, on peut dire puissants, savaient comment résister efficacement à leur adversaire. Eh bien, de la même manière, tous ceux dont Dieu se servira dans les jours à venir pour sa moisson devront résister efficacement aux attaques de l'ennemi. Oui, de même que les hommes puissants de David ont traversé les débordements du Jourdain, l'armée de Dieu des temps de la fin devra elle aussi faire face aux hordes démoniaques qui déferlent de tous les côtés parmi les nations. Elle triomphe des puissances du mal et rassemble dans les greniers de Dieu cette précieuse moisson de la fin, ces milliards d'âmes vivantes en ce dernier tiers du, on peut dire, du 21e siècle, peut-être, bientôt, peut-être même avant. La clé de sa victoire, comme celle de l'armée de David, elle se trouve dans sa compétence à résister aux attaques de l'ennemi, que ce soit par dizaines, par centaines et même par milliers. Elle doit donc comprendre ce que est le combat spirituel. Chers amis, actuellement, Dieu fait appel à un peuple qui renversera le plan de Satan pour s'emparer de la terre entière. Ce peuple, il est décrit au chapitre 12 de l'Apocalypse et le verset 11. Il est dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie, même jusqu'à la mort. » L'humiliation de Satan, elle est due en partie au fait qu'un peuple créé imparfait, car nous sommes encore imparfaits, se lèvera pour le renverser. Lui, il fut créé parfait, mais il a perdu sa gloire et sa position devant Dieu. Son nom, alors, voici bien longtemps, c'était Lucifer. Il s'appelait le fils de l'aurore. La racine de son nom en hébreu signifie « prière » ou « louange », car il menait la louange dans le ciel avant que notre temps n'existe. Je dis bien, avant même que notre temps, depuis Adam, a existé. Nous devons comprendre que la Sainte Bible ne nous dit pas tout ce qui pourrait satisfaire notre curiosité, mais elle nous dit tout de même ce que nous avons besoin de savoir afin de parvenir au but que Dieu nous a appelé à atteindre. La Sainte Bible, c'est un exposé de l'œuvre rédemptrice de Dieu pour les hommes. Elle débute avec la chute de l'homme et elle termine avec sa pleine restauration et l'accomplissement de l'héritage prévu par Dieu pour la race d'Adam. Mais dans différentes parties de la Bible, Dieu nous donne des aperçus d'une époque existant bien avant ce temps présent. Un tel verset, du reste, se trouve dans Ézéchiel, au chapitre 28, où le chapitre commence par un jugement qui avait été prononcé par le prophète Ézéchiel contre un homme nommé le prince de Tyr. Cet homme a vécu et il était très puissant et très doué, mais il s'est enorgueilli et le prophète prophétisa sa mort. Puis au verset 12, le prophète pleure, non sur le prince, mais sur le roi de Tyr. Ce roi de Tyr, lequel est bien plus grand que le prince. Alors que nous étudions ce passage de la Sainte Parole de Dieu, nous comprenons que ce prince de Tyr n'était qu'une pâle doublure, une sorte de forme de ce roi de Tyr, et que ce roi ne pouvait être autre parmi les créatures de Dieu que Lucifer, appelé maintenant Satan. Il est dit, « Et la parole de l'Éternel vint à moi, disant, « Fils d'homme, élève une complainte sur le roi de Tyr, et dis-lui, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, toi, tu étais la forme accomplie de la perfection, tu étais plein de sagesse et parfait en beauté. Tu as été en Éden, le jardin de Dieu. Toutes les pierres précieuses te couvraient, le sardius, la topaze et le diamant, la chrysolite, l'onyx et le jaspe, le saphir, l'escarboucle et l'émeraude et l'or. Le riche travail de tes tambourins et de tes flûtes était en toi. Au jour où tu fais créer, ils étaient préparés. Tu étais un chérubin oint. Oui, tu étais oint. C'est toi qui portais et qui protégeais et tout, et je t'avais établi comme tel. Tu étais donc dans la sainte montagne de Dieu, et tu marchais parmi les pierres de feu. Ézéchiel chapitre 28, versets 11 à 14. Et tu marchais parmi les pierres de feu. Oui, il est dit, tu étais la forme accomplie, plein de sagesse. Tu étais parfait en beauté. Ceci parle de la beauté spirituelle et de la sagesse divine de cet être angélique et glorieux, appelé Lucifer. Aucun homme ne pourrait correspondre à une pareille description. Aucun être humain n'a jamais eu la plénitude de la sagesse ni la perfection absolue de la beauté, même pas Moïse et Élie. Mais le prophète témoigne ici des attributs de Lucifer qui fut dans un temps très lointain le compagnon et l'ami de Dieu. Il est dit, « Tu as été en Éden, le jardin de Dieu. » Il ne s'agit pas ici de l'Éden, le fameux jardin qui a été créé pour Adam et Ève, mais il s'agit ici de l'Éden de Dieu dans le ciel, bien au-dessus de la terre. L'Éden d'Adam était-il une sorte de copie de celui qui existait auparavant, avant que ne fut planté celui dont il est parlé dans la Genèse, chapitre 2, verset 8. Répétons-le, cette formulation ne pouvait être appliquée à aucun autre être humain. Ensuite, les pierres dont Lucifer était couvert, elles sont toutes précieuses. Proverbe chapitre 17, verset 8 nous dit que le présent était une pierre précieuse. Et Proverbe chapitre 8, verset 11 nous dit qu'elle révèle que la sagesse est meilleure que les rubis. Ces magnifiques pierres nous parlent des dons merveilleux de sagesse et de connaissance dont était doué cet être angélique au moment de la création. Car, contrairement à Jésus-Christ, il a été créé ainsi que les anges. Nous ne pouvons que méditer sur la profondeur de son intelligence et la puissance impressionnante dont il était rempli au début. Il était un trésor unique dans un vase magnifique. Il semblerait qu'il fût créé tout spécialement dans le but d'être pour Dieu un compagnon et un ami, pour tenir et jouir d'une position élevée et pour avoir avec Dieu des relations privilégiées. Ces pierres précieuses dont il est tout de même question, n'est-ce pas? Il faut quand même le dire. À la création de Lucifer, eh bien, nous les retrouvons également comme garniture du pectoral du souverain sacrificateur. Lisez Exode chapitre 28, versets 17 à 20. Le sacerdoce d'Aaron était une préfiguration de Jésus, notre souverain sacrificateur, dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse. Colossiens chapitre 2, verset 3. Enfin, nous voyons ces pierres dans la Nouvelle Jérusalem, l'épouse de Christ, dans l'Apocalypse chapitre 21, versets 19 à 20. Ces joyaux parlent de dons divins, de capacités et de grâces propres à cet appel si élevé, si intime, que nul autre que Lucifer n'y est jamais parvenu. Mais l'épouse de Christ, elle recevra tous les dons, toutes les grâces et l'extrême beauté qui n'existait autrefois que en Lucifer seul, lui, le magnifique fils de l'aube. Le riche travail de tes tambourins, est-il dit, et de tes flûtes étaient en toi au jour où tu fus créé. Donc Lucifer était un être lyrique d'où jaillissaient les sons mélodieux. La musique fut un des attributs créés en lui, c'est-à-dire que lorsque Dieu créa Lucifer, la musique a eu ses origines en lui comme faisant partie de ses merveilles artistiques. Son ministère était celui de diriger l'adoration et la louange du Très-Haut. Lorsque Lucifer chuta, il a pris avec lui ses dons et il s'en est servi très vite contre Dieu, malheureusement. Nous voyons que les descendants de Caïn, ils furent les premiers musiciens terrestres. Genèse chapitre 4, versets 20 et 21. Donc, chers amis, à travers toute l'histoire humaine, on peut bien dire que Satan s'est puissamment servi de la musique, mais Christ restitue le ministère de la musique à son épouse. Il est quand même dit dans Apocalypse chapitre 14, versets 1 à 3, « Et j'ai vu, et voici l'agneau se tenant sur la montagne de Sion, et avec lui 144 milliers ayant son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis une voix venant du ciel, comme une voix de grandes eaux et comme une voix d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme des joueurs de harpe jouant de leur harpe, et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre animaux et les anciens. Et absolument personne ne pouvait apprendre le cantique sinon les 144 000 qui ont été rachetés de la terre. » Apocalypse chapitre 14, versets 1 à 3. Donc, les rachetés apprennent un chant nouveau. Ce chant nouveau, que seuls les rachetés de Dieu peuvent vraiment apprendre à chanter. Plus que les autres, ils jouissent d'une plus grande dimension de la joie, parce que ce n'est que dans la présence de Dieu qu'il y a la plénitude de la joie. Il ne s'agit pas du tout d'un chant superficiel issu d'une émotion passagère, mais c'est un chant né de la découverte profondément spirituelle de la présence intime de Dieu. Mais pour apprendre vraiment ce chant et qu'il devienne une partie intégrante de notre être comme il l'a été en Lucifer, eh bien, nous devons apprendre à le garder jalousement dans notre marche quotidienne et parfois désertique. Quelqu'un que j'estime du reste beaucoup et qui m'a enseigné beaucoup de bonnes choses m'a dit un jour, « Tant que nous n'avons pas appris à chanter dans le désert, nous n'avons pas vraiment appris à chanter. » Nous voyons donc ce principe divin dans Osée, au chapitre 2, versets 14 à 16. Veuillez, s'il vous plaît, chers amis, lire vous-même ces versets dans votre Bible, s'il vous plaît, Osée, chapitre 2, versets 14 à 16. Comme ce fut le cas pour Israël, Dieu nous attire souvent, nous qui sommes l'Israël spirituel, il nous attire en des endroits arides comme un désert, et son but, il est absolument le même. Dieu créa souvent en nous certains besoins à la seule fin de nous montrer qu'il est notre source. Il est celui qui pourvoit pour nous, alléluia, et il est notre époux, gloire à Dieu. Chers amis, pour quelques raisons que nous pouvons pas tout connaître, mais apprendre quand même beaucoup de choses, pour quelles raisons Lucifer a-t-il pu chuter? Eh bien, il est dit, tu étais un chérubin oint qui couvrait et je t'avais établi tel. Donc, Dieu affirme que Lucifer avait la position, on peut dire la plus haute, la plus sainte de toutes les créatures. Il était situé entre Dieu lui-même et toute la hiérarchie des anges. Il couvrait Dieu de la pleine vue des autres. Il se tenait sur les pierres de feu. Dans l'Exode, Moïse a vu ces pierres de feu sur la montagne, lorsque la présence de Dieu est descendue, elle nous parle du feu dévorant de la gloire de Dieu. Notez Ézéchiel chapitre 28, versets 15 et 16. Tu fus parfait, est-il dit. Tu fus parfait dans tes voies depuis le jour où tu as été créé, jusqu'à ce que l'iniquité s'est trouvée en toi. Par l'abondance de ton trafic, ton intérieur a été rempli de violence et tu as péché et je t'ai précipité de la montagne de Dieu comme une chose profane et je t'ai détruit au milieu des pierres de feu. Ô toi, chérubin, qui couvrais. Ézéchiel 28, versets 15 et 16. Donc, nous voyons que Lucifer tenait une place devant Dieu que nulle créature, personne jamais, n'avait tenue jusque-là. Il fut corrompu par l'abondance de son trafic. Mais quelle est la signification ici du mot trafic ? Le trafic ou la marchandise est ce qui se passe d'une personne à une autre, d'où le mot marchand. Satan était placé entre les rangs inférieurs des anges et le Très-Haut. Donc, les dons de Dieu passaient vers eux au travers de lui. Il était pour eux comme un prêtre. Leur louange et leur adoration passaient par lui lorsque elles montaient vers le Très-Haut. Il était donc le chérubin qui couvrait, car Dieu l'avait établi comme tel. Dieu avait décidé de lui donner la position la plus haute de toute la création. Seul Lucifer pouvait regarder la face glorieuse de Dieu dans la lumière inaccessible qu'aucun homme ne peut voir. 1 Timothée chapitre 6, verset 16. Mais les séraphins, dont il est parlé dans la vision d'Ésaïe au chapitre 6, verset 1 à 3, ne regarde pas Dieu en face, quoique ils soient tournés vers la présence personnelle de Dieu, leurs ailes font un écran entre leur visage et la puissance de sa gloire et de sa parfaite sainteté. Mais il y en a une qui se prépare pour remplir le vide occasionné par la chute de Lucifer. Une qui dominera sur toute chose auprès de son Dieu. Vous savez qui c'est ? Eh bien, c'est l'épouse de Christ. Oui, ce sont les membres de son corps. Elle sera encore bien plus près, plus proche de quiconque, créée, façonnée, formée, afin d'être un joyau, afin d'être une possession toute particulière pour son époux. Au chapitre 31 des Proverbes, il y a la description d'une femme vertueuse, mais cette description est bien plus que celle d'une femme sanctifiée. C'est l'image de l'épouse de Christ. Elle sent que son trafic est bon. De nuit, la lampe ne s'éteint jamais. Proverbes chapitre 31, verset 18. L'épouse a aussi de bonnes marchandises. Quel est le trafic ou la marchandise qui passe à travers nous vers les autres? Il y a beaucoup de choses. Il y a les dons de l'esprit, la sagesse, le bon conseil inspiré de Dieu et la grâce. Nous sommes les régisseurs des multiples grâces de Dieu. Le verset 11 nous dit que le cœur de son mari se confie en elle. Quoique Dieu ait investi son trésor en Lucifer et qu'il soit tombé, il place un tel trésor à son épouse maintenant, tandis qu'elle est mise à l'épreuve afin de lui être trouvée fidèle. Ézéchiel chapitre 28, verset 17 parle de cette triste chute. Lucifer était intermédiaire, on le sait, entre Dieu et les anges de catégorie moins élevée. Les dons et la sagesse coulaient donc vers eux au travers de lui et leur adoration montait vers Dieu par lui. Or, à un point précis, cette adoration, il se l'est appropriée lui-même. Ça, c'est très grave. L'abondance de son trafic l'a donc corrompu. Il est devenu jaloux, jaloux de Yahvé l'Éternel, et il a voulu devenir encore plus grand qu'il ne l'était déjà. À cause de sa beauté extraordinaire et de son éclat, il a chuté et n'a pas pu demeurer plus longtemps en présence de la parfaite sainteté de Dieu. Il complota une grande rébellion contre Dieu. Comment es-tu tombé des cieux, ô Lucifer, fils de l'aurore? Tu es abattu jusqu'à terre, toi qui subjuguais les nations. Et toi, tu as dit dans ton cœur, je monterai aux cieux. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu et je m'assiérai sur la montagne du rassemblement au fond du nord. Je monterai sur les hauteurs des nues et je serai semblable au Très-Haut. Ésaïe, chapitre 14, versets 12 à 14. Eh bien, Lucifer a réussi à entraîner avec lui dans sa chute un tiers de la foule des anges. Ça, c'est un fait très stupéfiant, incroyable de l'Écriture sainte, mais c'est aussi un fait qui donne à réfléchir avec sérieux. Lucifer était tellement convaincant, et il l'est toujours dans tous ses arguments, il croyait fermement qu'il pourrait renverser Dieu, Yahvé l'Éternel, et qu'il pouvait s'approprier le trône de la gloire, et qu'un tiers des saints anges de Dieu ont eux-mêmes été trompés, séduits, et ont été conduits dans la révolte. Ça devait être quelque chose d'inimaginable que aucun humain ne pourra jamais décrire. Ces anges ont perdu la place qu'ils avaient. Mais attention, ils n'ont pas perdu leur puissance et leur autorité spécifique dont ils continuent de se servir dans leurs efforts constants pour prendre le contrôle de l'ordre universel de Dieu. Dieu fut profondément attristé par cette trahison de Lucifer. Il est question de son chagrin dans le psaume 55, au verset 12 et 13. Car ce n'est pas un ennemi. Non, 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 ce n'est pas un ennemi qui m'a outragé. Alors, si c'était un ennemi, je l'aurais supporté. Ce n'est point celui qui m'a haï, qui s'est élevé orgueilleusement contre moi. Car alors, je me serais caché de lui. Mais c'est toi, toi, un homme comme moi, toi, mon conseiller et mon ami. Le terme « un homme comme moi » cela veut dire en hébreu « un de mon rang », toi, un qui est de mon rang, qui est de ma position, qui est de mon niveau. Donc Lucifer était, comme nous l'avons déjà dit, un compagnon proche, si ce n'est le plus proche de la divinité trinitaire. Avant sa chute, Lucifer avait marché avec Dieu. Après ce chagrin, Dieu a créé l'homme, il l'a créé pour l'aimer, afin qu'il domine et qu'il règne sur les œuvres de ses mains. Genèse chapitre 1, verset 26. Satan fut terriblement jaloux que Dieu avait pu créer un autre être pour le remplacer. Nous entendons résonner cette jalousie dans la question posée au psaume chapitre 8 et qui est citée dans l'épître aux Hébreux au chapitre 2 verset 6. Mais quelqu'un a rendu ce témoignage quelque part, disant « Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui ? Qu'est-ce que le fils de l'homme, que tu le visites ?» C'était bien sûr, c'était un ange déchu, en qui travaillait l'esprit de désobéissance et de rébellion. La réaction de Satan fut d'élaborer un projet et son projet personnel pour la durée des temps. La première démarche était de faire de l'homme, si possible, un allié ou un complice pour lui et contre Dieu. Satan convoitait toujours le trône. Oh oui, il ne pouvait influencer ou atteindre Adam et Ève à moins de les pousser à pécher contre Dieu. Et il est parvenu en trompant Ève et en incitant avec ruse la chute d'Adam au travers d'Ève. Satan manipula Adam afin qu'il transgresse ouvertement la volonté manifestée de Dieu, et ceci fut la chute. C'était la cause de la chute pour Adam. Donc Lucifer usurpa toute l'autorité et toute domination appartenant à Adam. Il a usurpé tout cela et il est devenu le prince de ce monde. Satan est également connu comme étant le prince de la puissance de l'air, et de ce fait, il demeure actuellement dans le deuxième ciel et non en enfer. On croit qu'il serait en enfer, mais non, il est dans le deuxième ciel. L'enfer, elle deviendra évidemment, finalement, son habitation lorsque s'accomplira Apocalypse chapitre 20, verset 10. Satan, c'est la tête d'une assemblée gouvernementale composée de princes démoniaques qui, à leur tour, règnent sur différentes principautés à travers tout le monde, à travers notre monde. À partir de ce gouvernement, les princes des ténèbres mettent habilement en exécution leur projet de maîtriser notre planète. Donc, nous devons comprendre que très peu d'incidents dans nos vies ou sur cette terre sont le fruit du hasard. On croit que tout est par hasard. Eh bien, non. On se trompe. Et on nous trompe. Tout mal a donc ses origines dans ce projet. Nos pires problèmes, tels que nos pensées tordues, et je me touche moi-même le nez. Je ne vous accuse pas, je m'accuse d'abord moi-même. Je répète nos pires problèmes, nos pensées, nos angoisses. Toute tragédie, chacune de ces choses a été pensée, a été conçue par qui? Par Satan et par ses princes ténébreux. Lorsque Adam chuta et que Satan usurpa son autorité, rappelez-vous, Satan est devenu le cruel dominateur de la race humaine. Il est la puissance sur laquelle sont fondés les systèmes du monde. À moins que le peuple de Dieu, par sa constante et fidèle intercession, ne fasse pencher la balance du pouvoir, eh bien le gouvernement de Satan sur les nations est clairement décrit dans Ésaïe chapitre 14, verset 6. Écoutez cela. « Celui qui, dans sa fureur, frappait de coups les peuples, sans relâche, dominant les nations dans sa colère, et il est poursuivi sans trêve. Et dans le livre de Daniel, les royaumes du monde sont comparés à des bêtes dévorantes, terrifiques, et cela à cause de la bête dévorante qui est Satan, qui se trouve derrière eux. Et nous, au contraire, nous attendons le règne de l'agneau de Dieu. Alléluia. Cela n'a rien d'étonnant que le prophète Haggai appelle Jésus l'agneau de Dieu, le berger, le roi, l'objet du désir de toutes les nations. Haggai, chapitre 2, verset 7. N'avez-vous jamais eu le sentiment d'être détesté par quelqu'un? Je vous pose la question. Eh bien, si vous avez eu ce sentiment, vous avez eu raison. Car le prince de l'air, il haït les hommes, même s'il se sert d'eux pour accomplir ses desseins. Il les méprise comme étant des êtres inférieurs, créés de la poussière, des êtres à utiliser puis à abandonner, des objets dont il se sert dans son plan démentiel de domination. Il est étonnant de découvrir à quel point les difficultés du monde viennent de l'ingérence satanique, car lorsque Satan sera lié, à ce moment-là, la terre entière sera dans la paix et elle éclatera de joie, enfin. Toute la terre est en repos et tranquille. Elle éclate en chant de triomphe. Les cyprès aussi se réjouissent de toi, les cèdres du Liban, depuis que tu es tombé. L'abatteur n'est plus monté contre nous. Ésaïe, chapitre 14, versets 7 et 8. Lorsque Adam a chuté, Satan était absolument sûr d'avoir réussi à s'être associé l'humanité. Mais quelle ne fut pas sa surprise lorsque Dieu a fait à Adam et Ève une promesse de restauration au moyen de la postérité de la femme. Et c'est à ce moment-là que Satan a donné priorité à la corruption entière de cette postérité, s'assurant ainsi le contrôle de la terre et de ses habitants. Voyez, souvent, on aurait pu croire qu'il y avait presque là quelque chose que Lucifer a totalement réussi. Car du temps de Noé rappelez-vous, selon les Saintes Écritures, seulement 8 personnes parmi les millions ont été sauvées. Satan avait lancé une offensive maximale contre la postérité de la femme. Cette humanité qui a vécu avant Noé, c'était la pire que l'on peut imaginer, et les péchés étaient les pires qu'aucun de nous pourra même supposer. Mais, hélas, nous approchons à nouveau de cette affreuse chose. Satan n'est pas vaincu au niveau des nations. Son ultime grand moment est très proche quand il régnera ouvertement sur plusieurs nations par le moyen de son Messie, c'est-à-dire l'Antéchrist. Mais il continue de convoiter le trône de Dieu pour se l'accaparer. Il ne se sert des hommes et même de l'Antéchrist que à ses propres fins, car son plan demeure toujours de renverser le vrai roi des rois pour se saisir de son trône. Et cela, nous le voyons en lisant certains passages de l'Apocalypse, où il est dit « Je vis ou j'ai vu sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits de démons faisant des miracles qui s'en vont vers les rois de la terre habités tout entière afin de les assembler pour le combat de ce grand jour de Dieu, de tout le tout-puissant Dieu. Et voici, je viens comme un voleur, est-il dit. Et bienheureux celui qui veille, donc nous devons veiller, et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Et ils les assemblèrent au lieu appelé en hébreu Armageddon. Apocalypse 16, versets 13 à 16. Veuillez s'il vous plaît relire cela tranquillement dans votre Bible. Apocalypse chapitre 16, versets 13 à 16. Howard Pittman, un homme de Dieu qui est maintenant auprès du Seigneur, il lui a été permis de voir le domaine des démons, et cela de façon assez exceptionnelle. Et il dit que les esprits impurs, savez-vous à quoi ils ressemblent? Ils ressemblent, difficile de le croire, mais c'est vrai, à de grosses grenouilles. Les Allemands ont fait quelque chose dans le sens d'adoration, d'un Froschkönig, le roi des grenouilles. Et donc, il dit, Howard Pittman, que ces esprits impurs ressemblent en effet à de très grosses grenouilles. Et ce sont les esprits de perversion sexuelle. Oui, vous l'avez bien entendu. L'énorme progression de perversion sexuelle nous montre bien que ces esprits sont déjà sur la terre et qu'ils ont déjà commencé d'attirer irrésistiblement la race humaine vers Armageddon. Du reste, il est prouvé partout autour de nous. Vous avez qu'à regarder, soit écouter les nouvelles, soit voir la télévision. Tous les drames qui sont dus à des choses qui ont une connotation avec les perversions sexuelles. Et comment les hommes peuvent-ils échapper à tout cela? Eh bien, Jésus nous le dit au verset 15. Au verset 15 d'Apocalypse 16. Si nous vivons de sa vie, eh bien, aucun démon ne peut nous toucher alors que nous veillons au milieu de la corruption sur la blancheur de nos vêtements. Il semblerait néanmoins que la perversion sexuelle ait un rapport avec les événements conduisant à Armageddon. On nous dit que les hommes sont leurrés par ces démons qui opèrent des miracles, et un fait est évident. Les rois et leur armée qui marchent hardiment contre le petit État d'Israël ne font que obéir inconsciemment aux pulsions de l'ennemi. Savez-vous que de plus en plus, dans le monde entier, autour de vous, si vous écoutez bien en dressant vos oreilles et en ouvrant vos yeux, même de plus en plus de femmes font tout ce qu'ils peuvent, militent pour les homosexuels, des femmes qui sont des mamans d'enfants, sont d'accord de plus en plus pour que l'homosexualité puisse s'étendre. Et ils prennent position pour les homosexuels dans le monde entier pour défendre leurs droits. Et vous pouvez observer cela de plus en plus. Même des États qui font des lois, attention, et quiconque s'opposera ou insultera un homosexuel peut s'attendre à avoir des problèmes assez graves. Et à la longue, ça deviendra tellement terrible qu'ils peuvent même risquer leur vie. Satan, il sait que Jésus-Christ vient bientôt au monde des Oliviers et la stratégie, c'est d'y faire venir les armées les plus puissantes en attendant la deuxième venue. Pense-t-il vraiment pouvoir écraser le roi des rois, le seigneur des seigneurs? L'orgueil de Satan est-il si colossal à ce point-là? Il semble que oui, car nous lisons dans Apocalypse chapitre 17, versets 13 et 14, que la guerre est dirigée contre l'agneau. Ceux-ci ont une seule et même pensée et ils donnent leur puissance à leur pouvoir, de tout leur pouvoir à la bête. Et ceux-ci combattront contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra, car il est seigneur des seigneurs, il est roi des rois, et ceux qui sont avec lui, appelés et élus, et fidèles, lui sont fidèles, jusqu'à la mort. D'autre part, nous lisons dans Apocalypse chapitre 19, verset 19, et j'ai vu la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblés pour livrer combat à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Mais malgré tout cela, le Saint, oui, notre puissant chef, le Seigneur Jésus-Christ, n'aura même pas besoin de s'endurcir. Il sera parfaitement à l'aise. Comment anéantira-t-il les plus grands efforts de Satan? Eh bien, il ouvre simplement la bouche, et l'épée sortant de sa bouche les tue. Il dit simplement une parole, et il tombe. Comme ce fut le cas pour Ananias et Saphira, au chapitre 5 des Actes des Apôtres, lorsque nous nous laissons tromper et que vient subitement la lumière de la vérité, eh bien l'impact a un effet dévastateur. Leurs cœurs ont cessé de battre, tout simplement. Mais nous savons d'ores et déjà que bien avant l'accomplissement d'Apocalypse 19, l'épée tue les puissances mauvaises qui envahissent notre terre. Et c'est cette même épée que nous avons le privilège et le devoir d'utiliser dès maintenant, c'est-à-dire l'épée de l'Esprit qui est la sainte parole de Dieu. Cette épée anéantira complètement les puissances des ténèbres. Chers amis, pour terminer, Dieu nous appelle à faire partie dès maintenant de son armée. Et pour cela, nous devons résolument apprendre à nous servir avec compétence et efficacité de cette arme très puissante. Nous ne devons pas attendre ce moment-là. Les vainqueurs du Seigneur, ils doivent prendre la victoire les premiers. Ils enseignent nos mains à combattre. Psaume chapitre 18, verset 34. Comment cela? Eh bien, simplement, avec l'épée de la sainte parole de Dieu. Chers amis, nous n'avons pratiquement plus le temps de prier, mais essayons quand même. Seigneur, tu nous offres la douleur pour nous conduire à la joie, et tu es obligé de nous faire mourir pour que nous puissions revivre. Lie-nous solidement à toi, pour que nous puissions affronter la souffrance et que nous la sachions endurer. Toi qui n'as pas pu, jamais as-tu pu éviter toutes les larmes, tous les combats et tous les déchirements. Toi qui as été forcé de mourir, oui, toi qui a été obligé parce que tu étais sur la terre et que tu étais l'un des nôtres. Tu as été obligé de souffrir de toute manière, mais tu l'as fait librement. Tu t'es offert librement pour nous sauver. Aide-nous maintenant à recevoir et à accepter, même s'il faut, des épreuves, à nous nourrir comme d'un pain fortifiant, et donne-nous le goût du saint renoncement, et rends-nous capables de prendre joyeusement notre vie pour l'amour de toi, de même de la perdre s'il le faut, notre vie, pour l'amour de toi et pour l'amour de l'Évangile. Amen. Chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études. Et celle-ci, elle est peu ordinaire. Et ça continue demain matin, Dieu voulant. Tout est dans les mains de notre Sauveur et Seigneur. Nous sommes que ses instruments. Et nous désirons de être et de rester ces instruments pour mieux le servir. Alléluia. À bientôt, chers amis. Que le Seigneur vous bénisse richement. Au revoir.